Te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint, notre Dieu. Pour ta présence dans nos cœurs. Pour ta présence dans ton Église. Seigneur, pardonne-nous pendant que nous sommes dans ta présence. Afin que notre culte, qui a commencé il y a quelque temps, continue d'être un culte agréable, comme un parfum de bonne odeur. Et là où tu nous connais, là où tu nous vois, là où nous ne sommes pas en règle avec toi, te demandons pardon, Seigneur. Que par l'action de Jésus-Christ, mort, ressuscité, monté au ciel, notre avocat, ton Fils, deuxième personne de la Trinité, qu'en lui, tu nous pardonnes, notre Dieu, et que tu puisses par la suite nous sanctifier et que des sources d'eau vive coulent de nous et que nous soyons ce matin dans ta grâce réceptifs pour ta parole. Alléluia à toi, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce encore d'être dans sa présence ce matin, de pouvoir non seulement le louer, l'invoquer. Quelqu'un disait qu'il est doux d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai que sa présence ne nous fait pas défaut. Il vit en chacun de nous. En même temps, il y a une communion particulière quand l'Église est rassemblée. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pour ça que Christ a institué l'Église. Sinon, il nous sauverait et nous laisserait seuls, chacun chez nous. C'est parce qu'il y a une communion particulière que Dieu se plaît à communiquer quand l'Église est rassemblée. Nous avons eu ce temps agréable dimanche dernier, cette célébration. Et pendant le culte de ce dimanche dernier, je vous avais encouragé avec ce thème du bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, n'est-ce pas? Voilà. C'était dans Jean le chapitre 10, verset 11. Et dans le verset 10, il disait: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, une vie abondante. Et un peu plus haut, dans le chapitre 9, au verset 5, il disait: aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus, lumière du monde. Beaucoup pensent que ce Jésus, n'est-ce pas, que ce Jésus, ce personnage, est né au premier siècle de notre ère. Ils pensent que le commencement de son existence commence là, hein, à ce que les hommes ont finalement dit l'an zéro. Et pour beaucoup, la Noël, c'est la fête de l'enfant Jésus, le petit Jésus. Et anecdote pour anecdote, j'étais cette semaine au garage, hein, par rapport à la voiture de l'église. Et puis le garagiste qui a fini de faire tout ce qu'il avait à faire et qui avait vu sur la carte grise église protestante évangélique, il m'a dit: il faut prier le petit Jésus qu'il donne une nouvelle voiture à l'église. Dans cette période, les gens ont l'expression le petit Jésus, l'enfant Jésus, parce que c'est l'image que ça renvoie dans la crèche, le petit Jésus. Cette idée, cette image qu'ont la majorité de nos concitoyens à Noël, ce petit Jésus, qui est ce Jésus? Jésus, lumière du monde. L'Église a pris pour habitude de célébrer le 25 décembre, la naissance de Jésus. Ce 25 décembre, nous le savons, les Écritures ne le disent pas, on n'a pas de date exacte de la naissance du Christ. Pourquoi? Parce qu'il est né comme un pauvre. À cette époque, les pauvres n'avaient pas d'extrait de naissance. En plus, il est né dans des conditions particulières. Il est né en dehors de tout cadre normal. Il est né dans une étable. Il n'a pas été assisté par une sage-femme. Donc, on arrive à situer la période où il est né. Mais le jour exact, on ne peut pas le situer. Dieu a laissé ce mystère. Il s'est trouvé que l'Église, au 4e siècle de notre ère, a finalement pris cette tradition de fêter cette naissance le 25 décembre. Pourquoi? Parce que le 25 décembre, il y avait une fête à l'époque, une fête non chrétienne qui s'appelait le Sol Invictus, le soleil invincible. C'était la fête de la lumière. On fêtait à cette époque de la saison l'entrée dans l'hiver. Vous savez que pendant l'hiver, le soleil, certes, il ne brille pas, il ne chauffe pas, mais il brille beaucoup. Et c'était la victoire du soleil. Et l'Église a vu là un signe, parce que le Christ est appelé l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Et c'est lui-même qui le dit dans cet Apocalypse. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour attester qui je suis. Je suis l'étoile brillante du matin. L'Église, au travers de cette célébration, fête la lumière. Jésus, lumière du monde. On peut quelquefois discuter des traditions de l'Église, mais l'apôtre Paul dit qu'il y a des traditions qui ne valent pas la peine d'être discutées, parce que ces traditions, elles ne nous enlèvent rien. Au contraire, elles nous donnent un espace pour célébrer notre Dieu. L'apôtre Paul, dans l'Aréopage, il a dit, dans cette ville qu'il a visitée, il a dit, j'ai vu que vous avez plusieurs dieux dans cette ville. Et j'ai vu que sur une stèle, vous avez mis un dieu inconnu. Il dit, vous avez tellement de dieux qu'il y a même des dieux que vous ne connaissez pas. Et il dit, je vais vous montrer qui est ce Dieu inconnu. Et il annonce Jésus-Christ. Il utilise un espace de cette culture. Il dit, vous avez mis un Dieu inconnu. Mais ce Dieu inconnu, je veux vous le révéler. Et il prêche l'évangile. Il dit, ce Dieu inconnu, finalement, c'est Jésus-Christ. Et ce jour-là, il y a des conversions. L'histoire est remplie d'événements comme ça que l'Église se sert pour proclamer l'évangile. Nous, les évangéliques, au travers de la Noël, nous savons bien que ce n'est pas ce jour qui nous intéresse, mais nous savons que c'est un espace où les cœurs sont disposés, où les gens sont disposés. Et on l'a vu dimanche dernier, nous avons pu facilement inviter quelques-uns de nos amis parce que ça s'y plaît. Mais ne restons pas sur les symboles, parce que parfois les symboles peuvent nous faire perdre le sens profond de ce qu'ils veulent dire. Qui est Jésus ? Jésus, lumière du monde. Les prophètes l'ont annoncé, n'est-ce pas? Et déjà Ésaïe l'avait annoncé. Plusieurs textes du prophète Ésaïe annoncent, parce qu'Ésaïe est celui qu'on appelle le prophète évangélique. Parce que dans son livre, c'est 66 livres, donc c'est à peu près symbolique de la Bible. La Bible est 66 livres et le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. Et on voit que dans le livre d'Ésaïe, il y a comme un Ancien Testament et comme un Nouveau Testament, parce qu'il parle beaucoup d'Israël, et puis à un moment, il parle du Messie, l'enfant promis. Et là, on rentre dans la phase de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, avant le Nouveau Testament, l'Évangile avant l'Évangile. Et Ésaïe annonce beaucoup de choses. C'est lui qui donne des précisions sur la naissance de cet enfant, de ce Messie. Et déjà au chapitre 9, là je vous ai mis quelques versets du chapitre 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Et il termine par disant, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. 7 siècles avant, 700 ans avant, Ésaïe avait presque prophétisé que les ténèbres seraient éclairées par la lumière. Et quand Jésus commence son ministère, il se met sous le signe de la lumière. Et c'est l'évangile de Jean qui nous montre Jésus, Jésus, lumière du monde. Jean chapitre 1, un texte important. Jean ne commence pas par l'Annonciation, par Marie, parce que les trois évangélistes l'ont déjà fait. Matthieu, Marc et Luc l'ont bien précisé. Jean commence à dire, ce Jésus qu'on croit être né là, en tant qu'enfant Jésus, il existait bien avant de venir prendre ce corps et être un d'entre nous. Et Jean dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes, croient en lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. À ce disciple qui demandait à Jésus, montre-nous le Père, Jésus lui a répondu, depuis que tu marches avec moi, tu ne connais pas le Père. Bah, si tu m'as vu, tu as vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi et nous sommes un. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus, lumière du monde. Jésus rend visible le Dieu invisible. Dieu dit à Israël, tu ne feras aucune image de moi, car tu ne peux pas me représenter. C'est pour ça que la foi juive est une foi qui n'a pas de statut, qui n'a pas de représentation de Dieu. Parce que Dieu dit, je ne ressemble à rien que tu peux connaître. Et dit, les autres peuples font des statues, certains des bœufs, certains des taureaux, d'autres des agneaux. Et on voit plein d'idoles qui ressemblent à plein de créatures. Et l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, car le Dieu que nous adorons ne peut pas être un quadruplède, un oiseau, rien du tout. Il est le Dieu invisible. Il se plaît à être comme ça. C'est le mystère de ce Dieu que nous rencontrerons un jour tel qu'il est. Mais Jésus le rend visible. Jésus le rend visible. Dieu, quand il a créé l'humanité, Genèse dit, il dit, créons l'homme à notre image. Donc, il n'a pas de problème à venir comme l'un d'entre nous puisqu'il nous a créé à son image. Dans ce qu'on appelle l'incarnation, Dieu vient pour être un homme. Pourquoi Dieu vient-il pour être un homme? Vous vous souvenez de tous les appels de Dieu dans les prophètes? Qui enverrai-je? Quelqu'un se lèvera-t-il? Y a-t-il quelqu'un qui puisse être un sacrifice sans tâche pour mon peuple? Personne. De sorte que le sacrifice qu'on appelle le sacrifice annuel pour les péchés, on est obligé de le faire chaque année. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice ultime. Or, dans l'épître aux Hébreux, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. À cause du péché originel, Dieu a dû prendre une vie. Quelle est cette vie qui était capable de racheter la vie de tous les humains? Il n'y en avait pas. Et dans le psaume, Dieu, dans son divin conseil, dit « Qui enverrai-je ? » Et le Fils répond « Envoie-moi. » Le Fils répond « Envoie-moi. » Et dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Je vais venir pour mes frères et mes sœurs. Je me fais comme l'un d'entre eux pour payer leurs péchés, pour les racheter. » Voilà comment Dieu, cette divine Trinité, le Fils, prend la mission de venir. Et l'ange, à l'annonciation à Marie, dit « Tu es bienheureuse. Tu as reçu une grâce, car par toi va s'accomplir ce que Dieu a annoncé depuis les prophètes. La jeune fille sera enceinte de façon miraculeuse, ce qu'on appelle la naissance virginale. » Dieu, par son miracle sur Marie, qui n'a pas connu d'homme, Marie tombe enceinte. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui devait naître sans péché. Or, l'union d'un homme et d'une femme, à cause du péché d'Adam et Ève, met toujours au monde un être pécheur. C'est pour ça que nous naissons pécheurs. C'est pour ça que nous sommes tous nés pécheurs, à cause de ce que Adam et Ève ont fait. Il naît sans péché, cet enfant. Il grandit. Pourquoi il naît sans péché ? Parce qu'il va racheter notre péché. La Bible nous montre bien que tous les sacrifices qui étaient demandés pour ce qu'on appelle le sacrifice pour le péché, l'animal devait être un animal sans défaut. La symbolique de sans défaut ici, c'est sans péché. Et Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul, donc aucun être humain, sauf un, Jésus. Donc, célébrer cette venue au-delà de la question de la date, c'est quelque chose de très fort dans notre humanité. Dieu vient comme un homme pour racheter notre péché. Pour racheter notre péché. Il s'est fait l'un d'entre nous. Il a pris tout à fait et totalement les conditions d'un être humain. Au point où il s'était limité lui-même en tant que Dieu. Il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire parce qu'il avait accepté de se limiter, ce qu'on appelle la kénose, l'abaissement du Fils de Dieu. Il décide d'être un être humain. Du coup, il renonce à certains de ses pouvoirs et de ses privilèges de Dieu. Tout ça pourquoi ? Pour racheter notre péché. Il dit, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Je donne ma vie pour ceux que j'aime. Élisabeth, la cousine de Marie, lorsqu'elle visite Marie et que Marie a besoin d'un signe, Dieu lui envoie Élisabeth qui est enceinte aussi, de façon extraordinaire, parce qu'elle est déjà ménopausée, parce qu'elle est stérile, et qu'elle enfante Jean qui sera le prophète Jean-Baptiste. Et le signe que Dieu donne à Zacharie son père, c'est dès la conception de l'enfant, tu seras muet. Et tu retrouveras la parole que lorsque l'enfant viendra au monde. Et pendant 9 mois, Zacharie est muet. Il a eu cette visitation lorsqu'il était en service dans le temple, dans le lieu très saint. Il a duré tellement dans le lieu très saint. En fait, quand un sacrificateur rentrait dans ce temple pour les services, on lui attacha une corde. Parce qu'il devait faire tous les sacrifices pour son péché. Mais comme on n'était pas sûr qu'il avait tout fait les sacrifices pour son péché, s'il y avait ne serait-ce qu'une once de péché, il risquait de mourir à cause de son péché. Et personne ne peut rentrer pour sortir le corps. Parce qu'on ne rentre pas dans le lieu saint. Il n'y a qu'un seul qui rentre chaque année. Et donc, on lui attachait une corde pour le tirer, pour tirer la dépouille. Donc, Zacharie mettait du temps, on ne le voyait pas revenir. Les gens disaient, ah, mince alors. Il a dû ne pas tout faire, les sacrifices sont péchés, peut-être qu'il est mort. Mais non, Zacharie était en discussion avec Dieu. Et quand il sort, il ne peut même pas parler. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bref, Élisabeth tombe enceinte. Et on lui dit, mais quel est le nom de l'enfant ? Il dit, Dieu a dit, Jean. Et il écrit, Jean. Et Jean est ce prophète qui ouvre la voie à Jésus-Christ, le prophète qui crie dans le désert, Jean le Baptiste. Et quand Élisabeth voit Marie, elle lui dit, tu es une bienheureuse, car la grâce de Dieu. Parmi toutes les filles d'Israël, Dieu t'a choisi. Non pas à cause de ton mérite, mais dans sa divine souveraineté. Et puis cet enfant grandit. Jésus, il a eu tout le développement comme un être humain. Il était enfant, il a grandi. On le voit adolescent à 12 ans dans le temple, n'est-ce pas ? Donc il a été vraiment un être humain. Il n'a pas juste été une enveloppe, non. Il a été un être humain apparent. Il a eu faim, il a eu soif. Il a eu mal. Il a pleuré. Il a rigolé avec ses copains. Mais il a beaucoup pleuré à cause de la condition humaine, n'est-ce pas? Jésus, parole de Dieu incarné, et Jean le dit bien dans son texte que nous avons lu, n'est-ce pas? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Jésus est le propriétaire de la vie humaine. C'est lui qui a créé la vie humaine. Après, les théories scientifiques commencent à dire plein de choses. C'est normal, c'est leur travail. Dans ce qu'elles disent, il y a du bon, il y a du faux, il y a du vrai. Mais au bout, les théories, toutes les théories qu'on appelle les cosmogonies, donc l'origine de notre planète, il y a toujours cette question de la vie. Et pour la majorité de ces scientifiques, il y a cette cellule qui, on ne sait pas d'où elle est venue, mais elle est quittée quelque part. Cette cellule de vie qui est tombée, et c'est elle qui a produit la vie. Et ils ont aussi une théorie qu'ils appellent le Big Bang. Mais le Big Bang, c'est le même mot qu'on trouve dans les Genèses. On dit au début, la terre était une femme informe et vide, et il y a eu un grand Big Bang. Après, chaque scientifique l'explique. La science croit qu'elle est contre Dieu, mais en fait, si vous le disiez bien, la science, elle atteste beaucoup de choses que Dieu a déjà dites. Quand on dit l'Éternel des armées, les gens croient que ça veut dire un Dieu guerrier. Non, la première signification de l'Éternel des armées, c'est que Dieu est le Dieu de toutes les étoiles dans l'infini. En fait, les armées, c'est les Juifs appelaient armées l'infinitude d'étoiles qu'ils voyaient dans le ciel. Comme pour dire que Dieu, en fait, il est l'Éternel de l'univers. Et que l'univers ne s'arrête pas au globe terrestre. On ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Bref, Jésus est le créateur de la vie. Ta vie, ma vie a été créée par Dieu. La différence est que quelques-uns le savent, d'autres ne le savent pas encore. Nous ne le savions pas jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous. Jésus est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de ma vie. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de toute vie humaine. Le psalmiste et le prophète ont dit, bien avant ma conception, tu me connaissais. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais, alors que j'étais une masse informe. Et là, on a toute la science biologique qui parle de l'embryon. Il dit, quand j'étais encore embryon, tu me connaissais. Jésus est la lumière du monde. La lumière, c'est la lumière de la conscience d'abord. Celui qui donne à la conscience son vrai objectif, celui qui donne à notre conscience humaine le vrai but de notre vie, la vraie orientation, c'est ça la lumière. Hein? Vous savez, quand les scientifiques trouvent quelque chose, on met un petit dessin comme une lumière, une lampe, voilà. Eureka, j'ai trouvé la lumière. C'est cette lumière qui nous éclaire, qui dit qui nous sommes et qui dit ce que Dieu veut que nous soyons et qui dit ce que Dieu veut que nous devenions et qui nous montre comment nous diriger sur le chemin, n'est-ce pas, lumière du monde. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, il dit les ténèbres, hein, il dit dans le pays les ténèbres, donc c'était l'image, le peuple qui marchait dans les ténèbres, les peuples qui marchaient dans les ténèbres, donc ils marchaient sans savoir où ils allaient. Les ténèbres ici, c'est le mal. Et notre monde est rempli de maux. Et chaque année, nous sommes consternés de toute la liste de violences qu'on peut voir dans notre société. La violence ne fait que s'aggraver. Elle ne s'atténue pas. Au contraire, on aimerait bien qu'elle s'atténue. Ce n'est pas le cas. Les conditions humaines, les conditions sociales aggravent cette violence. Et nous, en France, nous en sommes de plus en plus conscients depuis 6 semaines. dans les personnes en attente de jugement ou qui sont arrêtées dans tous ces mouvements, le constat, c'est que c'est des gens sans histoire. Et on se pose la question, comment ils ont basculé? Parce que notre société croit toujours qu'en tant qu'être humain seul, on peut s'en sortir. Parce que le cœur de l'homme, Jérémie le dit, car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui connaît le cœur de l'homme, sinon Dieu? C'est ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est que notre cœur est empêtré dans le mal. Mais notre société nous a dit depuis le siècle des Lumières qu'en fait, c'est pas vrai. Que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc en fait, c'est vous qui m'avez rendu mauvais, parce que moi je suis né bon. En fait, c'est nous qui t'avons rendu mauvais parce que toi t'es né bon. La belle excuse. Mais on voit que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Nous avons tous été des enfants, n'est-ce pas? Et plusieurs d'entre nous avons eu des enfants. Parfois tu te dis, mais comment un petit comme ça peut... Franchement. Dès qu'on avait l'âge de faire les quatre pattes, les bêtises commençaient déjà, n'est-ce pas? Et même avant de faire les quatre pattes, déjà dans le berceau, voilà. Oh là là, si petite. C'est encore innocent. Mais on voit déjà des choses. Nous sommes nés dans le péché, c'est un drame. C'est pour ça que Dieu vient comme un homme. C'est pour ça que Dieu naît comme un homme, mais il naît sans péché. Pour justement nous faire sortir de ce drame de nos vies, nous faire sortir de cet engrenage du mal dans lequel nous sommes plongés. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, peu importe, c'est notre condition humaine. Elle est une condition pessimiste. Il y a la seule bonne nouvelle, c'est que, heureusement, Dieu a accepté de venir dans le monde comme un être humain et de payer le prix. Mais avant de payer le prix, il nous a dit pourquoi. Il nous a montré qui est Dieu. Il nous a montré le caractère de Dieu. C'est pour ça que Jésus aussi a duré si longtemps, pendant 33 ans. Pour montrer aux hommes, avec force et raison, voilà ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu est venu, il vous l'a montré. Il a vécu comme un adulte. Vous avez vu. Et Jean dit, à la fin de son évangile, on aurait pu encore dire plein de choses si c'est Jésus. Mais on a mis l'essentiel dans les évangiles. L'essentiel qui communique la foi. Lumière de la conscience et de la raison. L'être humain s'est rebellé contre Dieu. L'être humain, créé à l'image de Dieu, s'est détourné de Dieu. Et désormais, l'être humain prend plaisir à vivre sans Dieu. Au contraire, on trouve que c'est une fierté de vivre sans Dieu. Malheureusement, nous voyons toutes les conséquences de cette fierté mal placée. Par contre, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont compris le message de Dieu, tous ceux qui sont laissés éclairer par Dieu et qui ont ouvert leur cœur à Dieu, le texte de Jean que nous avons lu, 12-13, dit, il a accordé à cette personne le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce. Nous ne méritons pas. Parce que nous sommes comme tous les autres. Mais la grâce de Dieu, comme sur Marie, nous a touchés. Et nous avons pu répondre oui. Alors, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont cru en lui, il nous a donné ce privilège, n'est-ce pas? Ce n'est pas par le sang. Donc, on n'est pas chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Donc, il dit, la vie nouvelle en Christ n'est pas héréditaire. Je n'hérite pas de ma foi de mes parents. C'est pas faux. C'est faux. C'est pour ça qu'il dit... Ils sont devenus enfants de Dieu, non par le sang. Donc, c'est pas, on n'hérite pas. Ni par la volonté humaine, tout simplement. Ni par la volonté d'un homme. Il dit, c'est Dieu. C'est Dieu parce qu'il nous aime, qu'il prend cette initiative de nous rencontrer. Et pour chacune qui ont fait le pas avec Jésus, vous savez à quel moment il vous a rencontré, à quel moment il vous a parlé, à quel moment les choses ont basculé. Et pourquoi Dieu fait tout ça? Pour que les hommes retrouvent leur sens initial. C'est ce qu'on appelle la restauration, la régénération. Dieu veut nous faire revenir comme quand tu nous as créés au commencement. C'est là l'objectif de la foi chrétienne. Non seulement nous sauver de cette perdition éternelle, mais nous reprogrammer pour que nous redevenions des êtres humains normaux. Et en ce temps de célébration, moi, c'est la question qui m'interroge. Je l'avais déjà prêché le 7 janvier dernier sur cette question du caractère de Dieu dans la vie des chrétiens. Le caractère de Dieu. Il dit car il a fait de nous des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il a fait de nous des gens qui ont le caractère de Dieu. Comment est-ce que ce caractère de Dieu se manifeste? Moi, j'aimerais tellement prier que le caractère de Dieu se manifeste avec puissance. Si je ne fais pas de miracle, peu importe, mais que mon caractère soit puissamment transformé par Dieu. Et je crois que ça peut être appelé le plus grand miracle, quand un caractère est transformé puissamment par Dieu. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, regardez ma vie, regardez mon caractère, regardez ce que j'ai été au milieu de vous, regardez ce que j'ai fait. Ça au moins, ça peut vous convaincre. Il dit, qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Il dit, et pourtant j'étais avec vous tous les jours, je n'ai rien caché, j'étais sur les places publiques, j'étais là, visible, pour vous montrer le caractère de Dieu. Et Galates, le chapitre 5, les marques divines du trait de caractère du chrétien mature. J'aime ce texte. Il dit, vers le verset 22, l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite, n'est-ce pas? Et cette conduite, elle est énumérée par plusieurs points. Le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? L'amour. Faut-il encore parler de la mort de Dieu, frères et sœurs? Peut-être faudrait qu'on cesse de parler de cet amour et qu'on commence à le vivre, sinon qu'on continue à le vivre, parce qu'on l'a déjà commencé à le vivre, qu'on le laisse exploser dans nos vies. J'aimerais que l'amour de Dieu explose dans ma vie et dans vos vies. Ça serait un plus grand témoignage, au-delà de nos paroles. Cet amour de Dieu qui est un amour qu'on appelle l'amour agapé, c'est-à-dire un amour désintéressé, un amour qui finalement se manifeste sans intérêt particulier. Mais l'intérêt, c'est pour que l'autre soit bien heureux. C'est un amour qui touche et au spirituel et au moral, qui ne dépend pas que du sentiment, mais qui dépend d'une décision, d'une volonté. Et c'est ce côté qui manque beaucoup dans les relations et avec Dieu et avec notre prochain. Avec Dieu, on met beaucoup de sentiments parfois dans nos relations. Et quand on n'est pas bien, nos relations avec Dieu prennent un coup. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. La fidélité à Dieu, c'est je sais qui tu es. Même si je ne vais pas bien, je sais qui tu es. Et je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et donne-moi la force de rester attaché à toi. Et de faire ta volonté, de t'obéir. Et ça va de même dans la relation à l'autre. Parfois, on n'est pas bien. Est-ce que parce que je ne suis pas bien, ma relation doit être exécrable avec l'autre? Et que trop souvent, ça a été le cas. Jésus, lumière du monde, il vient pour que cette lumière illumine nos caractères, nos comportements, nos vies. L'obéissance, le respect, la fidélité. Cet amour de Dieu, celui qui l'exprime à la paix intérieure, mais de cette paix découle aussi le désir et finalement la force de donner cet amour aux autres. Parce qu'on est rempli de Dieu, parce qu'on est rempli de cet amour de Dieu et la seule chose qui nous il dit nous sommes étreints par ton amour, nous sommes étreints par ton amour, nous sommes et on a donné cet amour de Dieu. Saint-Esprit, que tu nous aides pour que nos vies soient remplies de l'amour de Dieu et que nous puissions la communiquer, cet amour-là. Puissions le vivre. l'amour entre l'homme et la femme. Là encore un défi dans les couples chrétiens, ce défi de l'amour. Dans l'amitié entre les hommes, dans nos amitiés, ce défi de l'amour. Dans nos relations parents-enfants, papa-enfant, maman-enfant, ce défi de l'amour. Avec notre prochain, celui que nous ne connaissons pas, celui qui n'est pas un proche dans le sens de quelqu'un d'intime, mais qui est quelqu'un de loin, c'est ça le prochain. C'est quelqu'un que je ne connais pas, mais dont où je rentre en relation avec lui au travers des circonstances. Le prochain, c'est d'abord peut-être celui qui est dans un cercle assez proche, un compatriote, mais qui, au-delà, est aussi un étranger. L'amour n'entretient pas de mauvaises pensées. L'amour est fidèle. L'amour est fiable. L'amour est digne de confiance. Que Dieu nous aide. La joie d'être en Dieu, ce bonheur fondé sur les promesses divines. Quelle est la force des promesses de la Bible dans ta joie? La vie est jonchée de preuves et de difficultés. Pas que. Il y a aussi de bons moments de joie. Et il y en a de gros, il y en a de formidables. Mais tant que nous sommes dans ce monde pécheur, il y aura aussi des épreuves. Et notre joie, si elle doit dépendre des jours de... ou des jours de... notre joie est bien fragile. Notre joie s'appuie sur les promesses de Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu me rassures, car tu me rassures, ta houlette et ton bâton. C'est les promesses de Dieu, ça. La promesse de Dieu est là pour nous. On ne nie pas les difficultés, on n'est pas dans le déni, non. On est réaliste, sauf que on a quelqu'un. On a quelqu'un. Daniel dans la fournaise. Que dit le roi? Il dit, vous êtes combien? Parce qu'il était là avec eux. Il aurait pu empêcher qu'il soit jeté dans la fournaise, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Parfois, Dieu aurait pu empêcher qu'on vive des choses. Mais il ne le fait pas forcément. Parce qu'on est des humains aussi. Parce qu'on est comme les autres. À la différence que lui, il est là avec nous. C'est ça notre joie, que Dieu en Jésus-Christ est là, frères et sœurs, est là. Notre joie vient de là. La paix, pareil, cette paix est en Dieu. Quels sont les... ce qu'on a lu dans Isaïe tout à l'heure, Isaïe 9? Il est le prince de la paix. Quand un enfant nous est né, on l'appellera merveilleux conseiller. Père éternel, prince de la paix. Il est le prince de la paix. Que Dieu te donne la paix, ma soeur. Que Dieu te donne la paix, mon frère. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Pas comme le monde la donne. C'est une paix qui nous fait demeurer fidèles à Dieu. Même dans l'épreuve. Daniel a dit, ô roi, parce qu'il y avait une condamnation sur ceux qui ne se prosternaient pas devant le roi. Et Daniel dit, mon amour pour Dieu me donne de me prosterner que devant Dieu lui seul. Quel que soit le respect que j'ai pour toi, roi, je ne vais pas me prosterner. Qu'il plaise à mon Dieu de me délivrer ou pas, je préfère ne pas me prosterner. Il avait la paix. Il avait la paix que quelle que soit la décision de son Dieu, ça serait la bonne décision. Ça serait la bonne décision. On est devant des choix parfois qui ne sont pas évidents. On est devant des décisions qui ne sont pas simples. Entre rester fidèle à Dieu et basculer ne serait-ce que d'un iota vers ce qui n'est pas de Dieu. En ce moment-là, nous devons dire, quel que soit ce qui va m'arriver, la paix de Dieu me gardera, car ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit aussi. La patience. Ah, si Dieu n'avait pas été patient envers moi, je ne serais pas là devant vous en tant que pasteur. Ma mère avait commencé à perdre patience de cet adolescent agité. Il n'y a eu que Dieu qui a su me recadrer, me saisir. Pareil pour plusieurs d'entre vous. Pareil pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. On a dit à Pierre, vous dites que Jésus revient bientôt, depuis il n'est pas de retour. Pierre dit, si Dieu tarde, c'est pour votre bien. Mais en fait, Dieu ne tarde pas, mais Dieu est patient. Parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est patient. Et nous alors, les enfants de Dieu, quel est l'état de notre patience? Jésus, lumière du monde, Jésus, lumière de ton caractère. Quel est l'état de la patience dans ta vie? Sois patient envers toi-même. Parfois, on est découragé de nous-mêmes. Oh, Serge, ça ne va pas le faire, ça. Tu n'y arrives pas. Et on se donne des coups nous-mêmes. On se donne des coups. Apprenez à être patient avec vous-même déjà. Soyez indulgent envers vous-même. On n'est que des hommes, après tout. On n'est que des hommes. Avec la grâce que Dieu a et qu'il a promis de nous transformer à son image. Ensuite, sois patient avec les autres. Ça s'apprend la patience. C'est une école difficile, la patience. Une école difficile. Plus on veut apprendre à être patient, on a l'impression que Dieu nous met plus à l'épreuve. Là, tu as fait un bout, il t'en rajoute un, tu dis, oh, franchement, Seigneur, déjà, je suis presque à la limite de mon... Mais la parole de Dieu est claire, dit qu'il n'y ait aucune tentation qui vous soit parvenue, qui soit au-delà de vos forces. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Donc s'il estime que dans cette situation, il la laisse venir, c'est qu'il sait que tu es capable. Il faut juste que tu t'appuies sur le Saint-Esprit de Dieu. Et que tu lui demandes sa sagesse aussi. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. La bonté, je ne vous en parle pas, la bienveillance, vous le savez. La foi, vas-y, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous encourage à lire ce texte pendant que l'année est en train de s'achever. Et je termine avec ce que j'appelle un rêve, mais en fait qui est une vision biblique. Voilà. Je crois que si nous n'espérons pas en Jésus, en sa parole, il n'y a pas d'espoir. Que Dieu nous aide, que Jésus, lumière du monde, éclaire ton caractère, éclaire ta vie, éclaire ma vie. Que nous nous laissions transformer, dit, l'Esprit vous a donné la vie, laissez-vous conduire par l'Esprit et non par la chair. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Jean 3, 16 à 18 dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jésus est rentré dans le monde. Le Fils de Dieu est venu dans le monde pour délivrer les êtres humains de leur péché et des conséquences du péché. Et l'une des délivrances, c'est de nous transformer à l'image de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu. Prions. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci de te manifester dans nos vies, simplement. Que nos vies soient des vies transformées à l'image de Jésus-Christ. Là où nous avons fait des progrès, merci de nous encourager à y demeurer. Là où nous avons encore des défis, donne-nous de les voir et de nous défier nous-mêmes en nous appuyant sur ton Saint-Esprit car nous voulons te ressembler, Jésus. Car je prie que le fruit de l'Esprit soit tellement manifesté dans nos vies, dans ton Église.